Alors, en fait, il s'agit pour moi je dirais, de penser historiquement à partir du cas Sebald, en postulant ce que d'autres ont depuis appelé les savoirs de la littérature. Quelles sont ces questions très concrètement? Eh bien, je dirais, que fait Sebald à l'histoire et même j'élargirais à l'ensemble des sciences sociales? Comment Sebald déploie-t-il différemment l'histoire de ce siècle et l'histoire tout court? Comment nous aide-t-il éventuellement, nous historiens, à en renouveler la compréhension, à penser ce qu'on pourrait appeler l'historicité de l'existence et de l'expérience humaine? Comment aussi son écriture introduit-elle une étrangeté, disons, sur le territoire de l'historien, éventuellement en sapant, en détruisant en partie quelques solides fondements de la pratique historiographique? Bon, c'est quelques questions parmi d'autres. Alors, j'ai choisi, après discussion avec Muriel Pic, que je voudrais vraiment remercier ici, de m'interroger de nouveau, si vous voulez, là-dessus, avec en poche, je dirais, comme Sebald de lui-même, Triste Tropique de Lévi-Strauss. Puisque vous êtes ici tous des fervents lecteurs, vous n'ignorez pas que dans Les Anneaux de Saturne, Sebald dit, mais un peu comme en passant, avoir feuilleté, d'ailleurs, c'est drôle, feuilleté Triste Tropique. C'est pas un livre tellement qu'on feuillette, enfin je sais pas. Et lui, il a feuilleté Triste Tropique dans le train qui l'amène à l'aéroport d'Amsterdam. De cette lecture rapide, il extrait, je vous le redis pour ceux qui auraient oublié, c'est quand même pas un passage. Il extrait donc un passage où Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, s'étonne de l'incroyable éclectisme des styles dans le São Paulo des années 30, à l'image d'ailleurs des strates de population qui ont peuplé cette ville, une ville si typiquement américaine, et on sait que Lévi-Strauss s'est beaucoup intéressé à, disons, la forme urbaine, la morphologie urbaine d'une façon générale, mais notamment de la ville américaine. Alors, la référence à une œuvre contemporaine, qui est quand même rare sous la plume de Sebald, importe ici, à mon avis, plus que son usage. Lorsqu'une centaine de pages plus loin, Sebald cite de nouveau Triste Tropique dans une des quelques notes de bas de page de son œuvre, qui là aussi sont, c'est cette fois pour poursuivre à partir du mot bois de braise, Brésil, bois de braise. Et du constat de déforestation des îles britanniques, une rêverie que je qualifierais de thermodynamique, très lévi-straussienne, sur l'inéluctable processus de combustion, destruction, de ce que l'ethnologue, cette fois-ci, a appelé les sociétés chaudes, nos sociétés chaudes, par opposition aux sociétés sauvages froides. Cela suffirait sans doute à légitimer cette tentative de lecture de Sebald en compagnie de Lévi-Strauss. Mais, alors, j'ai essayé de réfléchir. D'une certaine façon, Sebald et Lévi-Strauss empruntent chacun à leur manière, mais cette manière est très différente, je m'empresse de le dire. Ce que j'appellerais les contre-allées de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire non seulement comme discipline, hein, avec cette homonymie française entre histoire, histoire, non seulement comme discipline, mais aussi, donc la discipline historiographique, disons, mais aussi comme tissu des événements passés. Sebald est habité par la mémoire traumatique de l'Europe du XXe siècle, dont il découvre très vite, ou peut-être pas si vite que ça, mais en tout cas dont il découvre la vanité d'en faire une histoire, au sens mise en ordre des événements, disons. Lévi-Strauss, quant à lui, est très peu intéressé par la mémoire. Il n'est pas peu intéressé par l'histoire, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais il est peu intéressé par la mémoire. On s'en est d'ailleurs étonné. Et par ailleurs, vous savez qu'il parle très peu de l'Holocauste juif, de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire, pour Lévi-Strauss, et c'est sa grande querelle, notamment avec les marxistes dans la Pensée sauvage, dans le dernier chapitre, avec Sartre et tout ça, est finalement pour lui le mythe des sociétés occidentales post-révolutionnaire, en gros des sociétés contemporaines 19e, 20e siècle. Elle carbure ces sociétés, pour reprendre une métaphore qui lui est familière, elle carbure à l'histoire, au grand événement, au progrès, en tout cas au changement. C'est parce que l'histoire nationale, d'ailleurs, fonctionne comme un mythe que les archives, garantes de cette histoire, sont comparées dans quelques pages assez peu commentées de la pensée sauvage aux shuringas. Alors les shuringas, ce sont des pierres ovales qui représentent les ancêtres. Bon, si ça vous intéresse, vous vous y reporterez, hein. Elles sont sacralisées comme les archives. Donc les archives et les shuringas opèrent finalement comme des probations du passé, des probations de l'historicité. Elles sont, comme écrit Lévi-Strauss, l'être incarné de l'événementialité. Le ça a eu lieu, si vous voulez. Dans les deux cas, donc, et quasiment mon intervention pourrait se terminer là, je me suis dit, j'étais un peu angoissée parce que l'histoire Zeba de Lévi-Strauss, dans les deux cas, l'histoire, je dirais, n'est pas centrale au sens où lui est substitué du côté de Zebald la mémoire et de l'autre le mythe. Bien. Alors, j'étais un peu mélancolique sur l'idée de traiter, disons, de ce sujet qui en même temps m'était apparu, et aussi grâce à Muriel, comme quelque chose d'important, mais je me suis dit finalement, non, c'est des chemins trop différents, et on peut toujours s'amuser, c'est très scolastique, à comparer tel auteur et tel auteur, mais so what? Alors, le premier point, disons, que j'aimerais traiter rapidement, c'est, il me semble que c'est ce que c'était un peu mon point de départ, en fait. C'était l'idée que Triste Tropique et toute la prose de Zebald, finalement, sont dans ce que j'appellerais une sorte de brouillage des régimes de vérité entre littérature et science. Bon, je vais développer un petit peu là, même si c'est quelque chose qui, je pense, enfin, a déjà été un peu traversée. La critique zébaldienne s'est intéressée assez logiquement à la dimension d'intertextualité littéraire que prodiguent ces textes, d'autant plus excitante parfois que la référence apparaît comme une présence un peu fantomatique, ainsi de Nabokov et de son Filet à papillons, mais aussi, bien sûr, on peut y chercher et on y trouve Proust, Kafka, Walter Benjamin. On pourrait y saisir du breton, à mon avis, et sûrement d'autres auteurs. Ici, je voudrais plutôt parler, parce que je crois que ça c'est moins vu, enfin. Encore une fois, j'ai pas lu tous les textes zébaldiens, donc j'espère que je suis pas en train d'enfoncer des portes ouvertes. Une intertextualité savante, disons, qui me semble importante dans la réflexion que nous avons à mener ici, c'est l'idée que la littérature, notamment la littérature zébaldienne, nous ramène un peu vers un régime, je dirais, épistémologique plus ancien, où lettres et sciences n'étaient pas séparées. Zebald et peut-être une partie de la littérature contemporaine réactualisent un modèle qu'on pourrait appeler le modèle des belles-lettres, englobant un peu toute l'épopée du savoir. Alors, par exemple, quelque chose qui m'a frappée en lisant Zebald en tant qu'historienne, c'est les tonalités michelettiennes de Michelet, auteur dont il ne parle jamais. Enfin, je ne sais pas s'il en parle, mais je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui me rappelle Michelet? Évidemment, la coprésence des vivants et des morts, si intense chez l'un et chez l'autre, où la porosité des deux univers est grande. Mais aussi le rôle de l'archive comme dépositaire de ces vies fauchées, qui ne demandent qu'à revivre sous la plume de l'historien. Comme le disait Michel de Certeau, l'histoire a comme mission de dégager une place aux vivants en assignant une aux morts. L'assignation de cette place est délicate et les morts débordent souvent de leur territoire dans des sortes d'hallucinations que Michelet et Zebald partagent, voyant littéralement les trépassés s'agiter sous leurs yeux. Tous deux sont par ailleurs des marcheurs. Certeau, là encore, parlait de l'historien comme un rôdeur qui rôde un peu comme ça. Ils sont des marcheurs et la marche à pied du voyage romantique de Michelet, comme du voyage postmoderne et solitaire de Zebald, est à l'échelle de l'histoire, la lenteur du cheminement, une sorte d'euphorie du panorama qui indique chez Michelet, parce que chez Zébald, on ne trouve pas d'euphorie du panorama, je crois pas, indique deux modalités possibles de l'écriture. Alors, évidemment, ce qui les sépare totalement, ce sont, si on pourrait dire, les philosophies de l'histoire, qui sont aussi opposées que possibles. Chez Michelet, une sorte d'accomplissement épiphanique de l'histoire dans la Révolution française, et au contraire, la lente agonie de toute entreprise humaine, après un bref apogée, la destruction, l'effacement, l'évanouissement de toute chose, le vertige de l'histoire chez Zébald, proche en son effroi du fameux ange de l'histoire de Benjamin. L'autre référence d'intertextualité savante, qui peut venir à l'esprit bien sûr, là c'est sur lequel je m'arrêterai plus longuement, c'est Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, auquel Zébald donc se réfère explicitement. Qu'est-ce qui peut faire penser comme ça, je dirais, à l'oreille, tout simplement, hein? D'abord, la déambulation rêveuse dans un monde saccagé, de manière à la fois poignante et mélancolique. L'ethnologue, lui aussi, l'ethnologue, si vous vous souvenez, Triste Tropique, est en proie au doute, mais aussi à la dépression, souvent à l'ennui. Épisode dépressif qui traverse régulièrement la littérature zébaldienne où les narrateurs tombent dans une espèce de torpeur. L'écriture aussi, disons pour aller vite, hein, classique et en même temps vibrante de Lévi-Strauss, la précision et la richesse de son onomastique, notamment botanique, nous ramènent au grand récit de voyage des naturalistes, des géographes, des entomologistes du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Et Zébald, dans un de ses entretiens, dit lire de préférence les scientifiques qui seraient une grande source d'inspiration. Je cite « Qu'ils aient vécu au XVIIIe comme Humboldt ou que ce soit des contemporains comme Rupert Sheldrake, cela importe peu, tous sont très proches de moi et sans eux, je ne pourrais pas poursuivre mes travaux. » C'est quand même très très fort comme aveu. Ce qui confirme que l'écriture propre de Zébald nous ramène à une époque d'indistinction entre littérature et science, avant que le milieu du XIXe siècle, en fait, ne produise ce découpage des savoirs. Là, je rappelle simplement ce que dit Wolf Le Pénis dans un ouvrage sur la naissance de la sociologie, qui s'appelle « Les trois cultures ». Il rappelle qu'au XVIIIe siècle, Buffon est reçu à l'Académie française et personne ne s'étonne que son discours de réception soit un traité sur le style. De même que donc Le Pénis montre comment la sociologie s'est séparée de la littérature dans un geste de rupture progressif, de même, Vincent Debanne, qui est un de nos collègues aussi, un de tes collègues à Columbia et... qui est anthropologue, montre le statut ambigu de la production anthropologique française au XXe siècle entre exigences savantes et tentations littéraires. Et Lévi-Strauss ne déroge pas à ce constat. Triste Tropique pourrait être ce que Vincent Debanne appelle le second livre de l'anthropologue, c'est-à-dire le second livre, le premier c'est, si vous voulez, la monographie savante. Et le second livre, c'est le livre destiné à un plus grand public et investi d'une mission de restitution, d'une altérité qui ne s'interdit pas ce que on pourrait appeler les sortilèges, de la littérature. Une anecdote d'ailleurs bien connue concernant Triste Tropique, c'est, vous savez peut-être que Triste Tropique, lorsqu'il il est publié en 55 et il a failli avoir le prix Goncourt en 56. Le jury ayant dit, c'est les lois, disons, du jury du Goncourt interdisent de donner un prix à ce qui n'est pas explicitement de la fiction. Or, le livre de Lévi-Strauss, Triste Tropique, n'était pas explicitement de la fiction. C'était pas de la fiction. Je savais pas très bien où le classer. Disons que là, il apparaît le plus souvent dans la presse comme le seul genre auquel on peut l'identifier, qui est d'ailleurs un genre du XVIIIe siècle, donc de ce régime des belles lettres, qui est aussi du coup celui adopté par toute la collection Terre Humaine, c'est celui du voyage philosophique. Hein. Cette commune attirance, et à mon avis, mais peut-être je m'avance un peu, cette commune nostalgie avouée, je crois, dans les deux cas, pour ce régime de savoir des belles lettres, se matérialise dans leur œuvre par une étourdissante érudition. Et je voudrais insister là-dessus, parce que je pense que cette érudition, on ne l'a sans doute pas assez soulignée, ni chez l'un ni chez l'autre. Chez Ebald, l'érudition historique, géographique, le savoir naturaliste est excessivement présent, mais il n'est jamais référencé en tant que tel par un appareil critique et bibliographique qui signe et garantit le travail savant. Chez Lévi-Strauss, il est sous-estimé pour une autre raison. Les références et les notes de bas de page, cette fois-ci, sont bien présentes. Et si on le lit bien, on mesure l'infime grain de sa recherche, notamment dans le cycle des mythologiques, mais un peu partout dans son œuvre. Ou dans les mythologiques, où le savoir cosmologique, mais aussi botanique, zoologique, etc., est absolument colossal. Et on le mesure d'autant mieux comme quand on fait un peu la genèse de cette œuvre à travers toutes les lettres, des demandes de précision, etc. C'est énorme. Pourtant, l'allure systématique et la théorisation poussée de ses écrits sur l'analyse structurale des mythes a occulté, à mon avis, les soubassements éruditionnels proprement dit, qui le rattachent à la science ancienne. Donc voilà, là c'était une des premières choses que je voulais souligner, cette commune appartenance à la fois à ce qu'on pourrait appeler un régime de vérité qui produit du coup des textes au statut un peu indécidable, sans aller plus loin. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est quelque chose, ce serait un peu quels sont les usages historiens de Zebald, en résumé un petit peu de ce livre-là, très vite. Ces usages historiens, en reprenant une expression que Muriel Pic avait utilisée, c'est une expression de Benjamin, mais qu'elle avait mise en exergue, disons, qui est une expression très, très imagée, très séduisante, brosser à contresens le poil trop luisant de l'histoire. Bon. C'est ainsi que Benjamin définit le rôle de l'historien matérialiste, qui refuse le cortège des vainqueurs, comme il dit. Et c'est peut-être ainsi que l'on peut également imaginer le sens profond d'une œuvre comme celle de Zebald dans l'usage que aujourd'hui les historiens peuvent en faire. En tout cas, si je devais résumer d'une phrase notre livre, c'est ça que je dirais. Un premier usage consiste à revisiter de manière décalée différents pôles de référence historique de notre contemporanéité. Lorsqu'il avait étudié la figure du Kindertransport, qui est particulièrement présente dans la mémoire britannique de la Shoah, beaucoup moins par exemple en France, ainsi que la spoliation des biens des Juifs parisiens dans les opérations meubles, Jean-Marc Dreyfus avait montré l'inscription très particulière de ce que Zebald appelle la destruction, il n'emploie pas le terme de Shoah, dans le roman Austerlitz. Jamais complètement là, puisque Jacques Austerlitz, dans ses pérégrinations, hésite à entrer dans les camps et qu'il se cantonne au camp secondaire, entre guillemets, hein, tout ça entre guillemets, et n'aborde pas le cœur du dispositif d'extermination. Et un rapport, Jean-Marc disait, un peu oblique, comme si on ne pouvait parler de cette histoire que de biais. Un peu comme vos dessins, enfin, je sais pas, il faudra en reparler, hein, de biais. À travers les gares, symbole de la modernité européenne et en même temps de celle de sa destruction rationalisée, pensons en effet à l'importance que lui donne l'historien Raoul Hilberg dans son imposante « Histoire de la destruction des Juifs d'Europe », ou bien par le truchement d'une digression extraordinaire sur la sériciculture sous le Troisième Reich, dont vous vous souvenez certainement, c'est un exemple pris dans les anneaux de Saturne, exemple de ce qu'on pourrait appeler, de ce que je crois Jean-Marc tu appelais une présence-absence, disons, très bouleversante du génocide. Mais il faut pas non plus, je sais que Austerlitz présente une sorte de centralité dans l'œuvre, mais la constellation, je dirais, de la destruction ne se circonscrit pas chez Sebald à la géographie concentrationnaire. Elle envisage également, de façon parfois curieusement nouée, la destruction de la nature par la modernité industrielle et urbaine, l'enlaidissement des paysages, enregistré avec mélancolie par le narrateur arpenteur, un marcheur doté d'un savoir géographique qui sait décrypter les paysages et leur histoire, ce que, et là c'est une autre référence, je me demande bien si Sebald l'avait lu, etc., mais lui aussi, avec des textes de Julien Gracq, de ce que Julien Gracq appelait des paysages histoire, en un seul, des paysages histoire. Chez Sebald, en effet, la destruction est tout aussi bien celle immémoriale du combat de la terre et de la mer, tel qu'illustré par le recul du trait de côte des rivages du Suffolk, observé par le randonneur des anneaux de Saturne. L'expérience du cheminement, et ça c'était un géographe qui nous avait un peu montré ça, hein. L'expérience du cheminement fait émerger une mémoire des lieux qui est fondée sur un sens à la fois savant et sensible de la territorialité. Ce que Jean-Louis Tissier donc avait appelé la Sebaldie, hein, ce paysage imaginaire, c'est donc une géographie érudite déployant l'histoire, mais aussi l'histoire naturelle et les faisant jouer à différentes échelles. De ce fait, l'intelligence du lieu s'emboîte dans la marche du monde, comme lorsque, dans ce jardin de l'East Anglia, le narrateur redécouvre le porte-avions de la Grande-Bretagne en guerre. Mais aussi, autre figure et autre réflexion sur la destruction, à propos du personnage de Jacques Austerlitz, ce marcheur réagit à une topographie subjective qui détecte, comme un sourcier qui détecte l'eau, d'une certaine façon, un passé de destruction sous l'apparente paix des lieux. Ça aussi, ça... Par un effet de contamination linguistique et topologique, le récit sebaldien est alors une sorte de déni de la circonscription dans le temps et dans l'espace de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas juste les camps, en fait, c'est toute l'Europe qui est contaminée. Et ce qu'il nous apprend, et là encore, je dirais que ça conteste une forme de rationalité historienne, c'est que les cendres des camps d'anéantissement nazi se sont disséminées sur tout l'espace européen. D'autres motifs, d'autres lignes traversent cette œuvre. Évidemment, vous connaissez mieux que moi l'exil, l'expatriation, l'exil des Juifs, mais aussi, pas seulement, l'émigration économique. Et évidemment, je ne sais pas si l'exil, je dirais, psychiatrique, l'exil intérieur de l'enfermement psychiatrique, les cliniques psychiatriques étant, me semble-t-il, un lieu sebaldien récurrent, métonymie des souffrances du siècle. C'est un peu le siècle comme une grande maison de fous aussi chez Sebald. Et c'est aussi, finalement, ça c'est quelque chose, j'y pense juste là maintenant, mais il y a eu un certain nombre de choses, pas seulement enfin en littérature ou au cinéma aussi, voir l'histoire du siècle du côté de l'asile psychiatrique. Notamment, il y a eu un film, alors maintenant le nom m'échappe, le titre, le cinéaste, tout ça, sur l'histoire du fascisme, en fait, à travers l'internement psychiatrique dans l'entre-deux-guerres. Ça me reviendra plus tard, mais... Enfin bon, je pense que c'est une grande... C'est évidemment, enfin, il faudrait creuser. Mais là, il y a encore autre chose, je crois. L'architecture, évidemment, si essentielle, les gares, les grands hôtels, les cathédrales industrielles de l'âge d'or manchestérien, etc. Toutes ces formes, je dirais, de griffures infligées par l'homme à la surface de la terre et qui ont ceci de commun qu'elles sombrent toutes assez rapidement à l'échelle géologique, où on est souvent avec, dans l'évanouissement d'une gloire éphémère, qu'il s'agisse du grand hôtel des Roches Noires, Marguerite Duras, hein, mais bon, là aussi, c'est, hein, ça nous donne à rêver, mais on ne sait pas. Ou de la demeure seigneuriale de Somerleyton. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Alors, juste dire que du point de vue également de la philosophie de l'histoire, Lévi-Strauss et Sebald, là, se retrouveraient, bien que très différemment, sur ce que j'ai appelé une contre-allée de l'histoire contemporaine. Et là, j'insiste parce que, même en passant et rapidement comme ça, ça me semble une des choses. Ce paysage dévasté, à l'échelle européenne pour Sebald, à l'échelle du monde pour Lévi-Strauss, puisque l'ancien monde, vous vous souvenez de ce réquisitoire qui est aussi tristotropique, l'ancien monde a contaminé les nouveaux. L'ancien monde déverse ses propres déchets sur le monde entier, etc. Eh bien, des deux côtés, à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, cette vision est évidemment un défi au grand récit du progrès que les historiographies d'aujourd'hui ont abandonné, mais que les historiographies officielles jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais aussi les convictions intimes des Occidentaux ont fait valoir. À mon avis, et chacun à leur manière, Sebald et Lévi-Strauss en constituent, dans la production intellectuelle du deuxième XXe siècle, deux des plus puissants et des plus poignants démentis. Troisième point que je voudrais traiter, toujours Sebald, Lévi-Strauss, l'histoire, comment Sebald met en place, par sa littérature, ce qu'on pourrait appeler non plus des figures de l'histoire contemporaine, mais des modèles de connaissances et des conceptions, disons, l'histoire, de l'historicité, et aussi, je dirais, des modèles d'écriture de l'histoire. Donc, aller à contresens amène également à déstabiliser les savoirs trop sûrs de l'histoire en interrogeant ces modèles de connaissances. Ces modèles de connaissances, mais aussi ces conceptions, donc, de l'historicité. Il existe bien chez Sebald ce que l'historien Carlo Ginzburg qualifierait de modèle indiciaire. Puisque ce que Ginzburg appelle modèle indiciaire, c'est ce savoir par les traces dans son article, disons là-dessus, on pourra en reparler éventuellement, mais qui s'oppose au savoir scientifique classique né dans la rationalité savante du XVIIe siècle, puisque ce savoir indiciaire, en fait, c'est le savoir du chasseur préhistorique qui flaire et qui déduit des choses et des traces qu'il voit. Hein. Donc pour lui, c'est un savoir millénaire. Et pour lui, pour Ginzburg, ce savoir, disons, indiciaire, c'est à la fois le savoir du roman policier, de la psychanalyse, et aussi en partie de la médecine, l'examen clinique, hein, et aussi donc de l'histoire. Donc chez Sebald, on a ça, hein, sa poétique et déchiffrement des traces qui peu à peu s'extrait de la brume du souvenir. Et donc, elle s'intègre dans ce qu'un littéraire Emmanuel Bouju appelle la promotion de la trace dans le roman européen, mais aussi dans l'historiographie contemporaine. Un deuxième modèle, qui s'inscrit en partie dans le premier, chez Sebald, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle anatomique de la connaissance historique, ouvrir le corps de l'histoire, comme le corps du Maccabée disséqué par le docteur Tulp, dans le tableau de Rembrandt, longuement analysé dans le premier récit des Anneaux de Saturne. Et enfin, il existerait un autre modèle qu'on pourrait qualifier de restitutif, où il s'agit de raconter, alors presque ça serait un modèle michelétien à ce moment-là, hein, faire entendre les voix du passé, exhumer un passé enfoui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun de ces modèles ne semble pleinement satisfaisant chez Sebald. Pourquoi ? Parce que disséquer, c'est tuer une deuxième fois un corps qui a vécu et faire abstraction de toute empathie avec le vivant. Mener l'enquête, comme le dit Carlo Ginzburg, mais avec une faible intensité dramatique et un faible espoir d'arriver, comme dans un roman policier, à une solution, finalement. Chez Sebald, on ne peut pas dire que ce soit un suspense extraordinaire. Finalement, pour Sebald, la connaissance et ses processus semblent beaucoup plus illustrés, valorisés, par les personnages de savants, amis, qu'il met en scène avec beaucoup de tendresse, je trouve. Michael Parkinson, spécialiste de Ramuz, et je sais plus son prénom, Dakin, je sais pas comment, Janine, c'est ça, Dakin, d'accord. La Flaubertienne émérite, ensevelie par les murs de papier, qui est une figure absolument, merveilleuse. Et le chercheur idéal pour Sebald, et n'oublions pas qu'il en fut un la majeure partie de sa vie, est d'abord défini par son dévouement, par son honnêteté intellectuelle, par une forme d'obsession aussi, qui va jusqu'au péril de sa vie presque, et par le souci du détail. C'est vraiment le grain de sable chez Flaubert, et de l'érudition. Je reviens sur cette notion d'érudition, qui est une notion, je reviens dessus parce que c'est une notion qui me semble très dévaluée dans la culture contemporaine. Une éthique du travail et une espèce d'identification, sans doute dangereuse, avec en l'occurrence là un auteur dont on parcourt à nouveau l'existence par les textes, mais aussi par la marche. Muriel Pic a examiné dans le livre qu'elle a consacré à Sebald quelques modèles possibles. Je me contente juste de les rappeler là pour que mon exposé fasse un peu sens, et aussi parce que ça me permet de lier Lévi-Strauss. La figure du conteur, Johann Peter Hebel, et la littérature d'almanach, les almanachs qui intéressent beaucoup les historiens, comme vous le savez, ça en est une première déclinaison qui valorise l'oralité, qui valorise aussi une sorte d'éthique de l'insignifiant. Je reprends ce qu'a écrit Muriel là. Le refus de la hiérarchisation des données, une poétique du détail, de l'anodin, et aussi, terme très important, aussi pour l'anthropologie, du rebut. Quelque part, et bon, vous me voyez un peu arriver avec mes grosses chaussures, Sebald et l'anthropologue font les poubelles de l'histoire. Cette vision symptomatique d'un temps où tout est résonance, où l'avenir peut être lu de façon divinatoire, comme on lirait les cartes. L'interrogation que on pourrait qualifier de clinique du passé, où les traces, les rêves, les images, aussi minuscules soient-elles ou soient-ils, sont autant de signes à interpréter d'un destin possible, en sont d'autres. Lorsque Sebald parle de l'éphémérie, de l'almanach, où on pourrait parler de l'examen des entrailles, après tout, des animaux, tout cela, ce sont des genres littéraires alternatifs qui ont tous en commun de contester la rationalité des historiens et même la rationalité savante en général. Et là, ça m'a frappé que tous ces genres, appartiennent pleinement à ce que Lévi-Strauss appelle en fait la pensée sauvage, très exactement. Mais pensée sauvage dont là encore, par des voies différentes, Sebald et Lévi-Strauss assurent la revalorisation face à la pensée rationnelle. Puisque, là c'est plutôt chez Lévi-Strauss que c'est très fortement argumenté évidemment dans son livre et... Elle opère par une forme de rationalité classificatoire, elle aussi. Il y a de la rationalité dans la pensée sauvage aussi. Et elle se montre souvent efficace à sa manière. Lévi-Strauss le dit à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que elle opère en fait sur un vrai immense savoir naturalistique chez les tribus sauvages. Et que d'ailleurs, par exemple, il montre très bien comment la médecine indigène est assez efficace. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'on reprend un tas de choses. Alors, dernier point dans cette réflexion autour de la notion de bricolage. Alors, je voudrais revenir simplement sur le fait que le texte zébalien, bon, vous connaissez mieux que moi, je sais que vous avez parlé hier de la photographie, etc., des usages de la photographie. Évidemment, les historiens sont beaucoup intéressés à l'archive, mais je sais que cet après-midi, Philippe Artière va vous en parler. Donc, évidemment, ce qui a beaucoup frappé dans les livres de Zébal quand ils ont commencé à apparaître et beaucoup intéressé du côté des historiens, c'est cet usage d'une archive, de ce qu'on pourrait appeler, ce que certains historiens ont appelé une archive de l'ordinaire. Zébal, je ne sais pas s'il lisait tellement les historiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il lisait en fait, ça c'est la grande. Mais il est à l'unisson, enfin disons, il est comment dire, homologue à un tournant de l'historiographie, quand je dis l'historiographie, donc l'historiographie professionnelle, entre guillemets, hein, qui, par exemple, du côté des 18e, pensons à des gens comme Arlette Farge, ou bien je peux vous donner d'autres exemples, hein, qui vont promouvoir ce qu'on peut appeler des archives de l'ordinaire, y compris dans leur côté totalement fragmentaire, des petites inscriptions. Si vous connaissez le travail d'Arlette Farge, vous comprendrez ce que je veux dire, hein, des bouts de choses, etc. Bon. Chiffonnier des temps modernes, hein, pour reprendre, récupérateur de traces infimes qu'ils conservent dans leur matérialité. L'aspect matériel de l'archive est très important, inscrit au cœur du texte de Zebald. Bon, alors, c'est évidemment ce bricolage de matériaux hétérogènes qui fait la texture spécifique d'un livre de Zebald. En tout cas, c'est apparu comme ça. De même que là encore, et là c'est très frappant, Triste Tropique relève lui aussi d'un bricolage formel, je dirais, fait de carnets de terrain. Et là je sais exactement comment Triste Tropique s'est fait. Il a fait pas mal de copier-coller en fait, et il le dit, hein, en fait, bon, enfin, éventuellement je pourrais vous en reparler plus tard. Donc copier-coller avec des choses, des fonds de tiroir, hein, des fonds de tiroir qui lui restent, notamment tout ce qui est la partie brésilienne, si vous voulez. Bon. Donc le cœur du livre. Le Triste Tropique, bricolage, fait de carnets de terrain jamais tellement utilisés. Et là, il recopie texto. Hein. Bon, c'était bien rédigé hein, dans le carnet de terrain. Des digressions philosophiques et une discrète autobiographie par un sujet, et là, à nouveau, je glisse autre un peu, qui, comme chez Proust, mais aussi peut-être comme chez Zébal, mais ça c'est se constitue à la fin du périple et non pas au début. Il n'y a pas de sujet constitué au début, il y a un sujet constitué à la fin de Triste Tropique. Bon, mais le bricolage tel qu'il est théorisé, disons, par Lévi-Strauss, qui par ailleurs, je vous le dis en passant pour votre amusement, était un grand bricoleur. Enfin, je veux dire, il réparait tout quoi, chez lui. Donc ça c'est, enfin c'est un intellectuel bricoleur, c'est le rêve. D'après sa femme. Hein. Non, mais c'est drôle parce que là, il y a un écho proprement biographique en fait. Mais c'est là où quand même, quand on est biographe, on a un peu des états d'âme parfois. Enfin, d'ailleurs, je m'identifie. Enfin, je me dis pas du tout biographe. J'en ai fait une. C'est la première, la dernière. Mais c'est vrai que enfin bon, il y a des échos et dans la pratique, c'est quelque chose de pratique. Dans la pratique du bricolage. Bon, alors maintenant, je vais parler du comment il a théorisé le bricolage. Mais ça s'ancre non seulement dans une expérience, mais dans une expérience familiale très riche et à partir de là très pleine de sens en fait. Donc le bricolage tel qu'il est théorisé par Lévi-Strauss sert plus profondément à définir ce qu'il appelle la science du concret dans la pensée sauvage, qu'est la pensée mythique. Le terme, si vous reprenez la pensée sauvage, le terme insiste sur deux des caractères du bricolage, si vous voulez, et de la pensée sauvage, qui distingue cette pensée de la science rationnelle, de même que le bricoleur va se distinguer de la figure du bricoleur se distingue de la figure de l'ingénieur. D'une part, première chose, les ressources sont limitées et souvent hétéroclites. Il faut s'arranger, entre guillemets, avec les moyens du bord, avec ce qu'il y a dans la boîte où on va bricoler des trucs. Pour la pensée mythique, des signes, des mythèmes, des personnages, des événements qui vont être repris et montés différemment à chaque fois. D'autre part, on recompose du nouveau avec de l'ancien. Ça, c'est très important et c'est la deuxième chose qui spécifie cette... Il n'y a pas de création ex nihilo, en fait. On recrée avec de l'ancien. Lévi-Strauss poursuit. La pensée mythique, donc, fabrique de la structure à partir de l'événement, du nécessaire à partir du contingent. Comment cela peut-il se comprendre pour Sebald ? Le montage d'archives ordinaires, le montage au sens cinématographique presque de ce point de vue-là, de photos, de blocs érudits, de digressions somptueuses, correspond assez bien au caractère, et là je reprends le mot en anglais « odds and ends » qui est utilisé du bricolage lévi-straussien. Le bricolage, écrit-il, opère, je cite Lévi-Strauss, hein, en utilisant des résidus et des débris d'événements. Odds and ends, dirait l'anglais, ou en français, des bribes et des morceaux, témoins fossiles de l'histoire d'un individu ou d'une société. Ces éléments déjà là, dont sont part la prose sebaldienne, souvent dans leur nudité anodine, presque insignifiante, c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, pour Lévi-Strauss et pour l'anthropologie, souvent les meilleurs documents, hein, qui sont les résidus d'une certaine façon. Il faut faire les poubelles d'une société pour être un bon anthropologue. Eh bien, cette vision, disons, ces éléments déjà là, je crois, répond à une conception plus humble de la création esthétique que la vision, disons, je caricature un peu, hein, mais je fonctionne par opposition, si vous voulez, que la vision, je dirais, démiurgique, qui est celle de la modernité artistique à partir, disons, de la milieu fin du 19e siècle, l'idée qu'on produit ex nihilo, etc. Nul doute, à mon avis, mais que Sebald a cautionné cette posture de modestie. Contrairement à une littérature moderne, disons, persuadée peut-être de ses pouvoirs de création ex nihilo, le bricolage sebaldien opérerait à ce que Krakauer appelle un étage intermédiaire, ce qu'il appelait le semi-cuit, étage auquel opère également l'historiographie selon Krakauer. Sebald recompose du nouveau. Ça, il n'y a pas de problème. On sent en lisant Sebald qu'on n'a jamais entendu cette voix-là, à partir de matériaux anciens qu'il va trouver dans les poubelles de l'Europe contemporaine, dans les ruines de l'Europe contemporaine. Comme, et je termine, hein, comme dans un récit d'expédition, et n'oublions pas qu'il a son sac à dos, hein, l'anthropologue Sebald nourrit son propos de documents et de remarques dans une posture très réflexive où le narrateur se met certes en scène, mais le plus souvent comme réceptacle des discours indigènes. Les indigènes étant cette fois-ci les sauvages, et vous avez dit ça tout à l'heure, les juifs c'était les sauvages, hein, ça m'a... Les sauvages pour les nazis. Donc, ces discours indigènes sont les discours des Européens traumatisés par l'histoire, Européens qui ne réussissent pas à en faire une histoire et qui ne réussissent encore moins à en faire un mythe. Sebald, on dit toujours, l'anthropologue, pour être un bon anthropologue, doit être à distance, doit être étranger au monde qu'il va étudier. Eh bien, Sebald est suffisamment étranger à son propre monde. Son propre monde, donc l'espace germanique, hein, la Mitteleuropa entre la Suisse, le contrefort des Alpes bavaroises, autrichiennes, italiennes. Je crois qu'il est suffisamment étranger à son propre monde pour pouvoir assumer cette position, cette posture d'extériorité de l'anthropologue. Alors, pour terminer, archéologie de la mémoire, puisque c'est comme ça, c'est le titre des entretiens, hein, de... je ne sais pas qui a donné ce titre exactement, mais... L'œuvre de Sebald peut-être aussi se lire comme une anthropologie historique de l'Europe des catastrophes qui ne donnerait pas la vérité de cet âge, mais qui, à la manière dont Lévi-Strauss dit que mythologique, c'est une variante, c'est pas la vérité des mythes qu'il étudie, mais c'est une variante elle-même des mythes qu'il étudie, serait également une variante signifiante, disons, possible de cette expérience européenne contemporaine qui nous donne à la fois à comprendre, à voir et à revivre quelque part comme un grand cabinet de curiosité. Et je reviens à ma science du XVIIIe siècle, hein, du cabinet de curiosité. Voilà, merci.